Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez. Ici Sens, l'émission qui cherche à introduire aux sciences sociales et essaye de donner un sens à l'actualité ou à des préoccupations plus générales sur le monde social. Nous sommes à un moment où on exhorte chacun à aller plutôt voter que se réunir dans la rue et à travailler plutôt qu'à manifester. Parce que actuellement, la foule évoque surtout l'anarchie assez sauvage et bruyante. Elle évoque des McDo cassés, mais elle peut évoquer de temps en temps, parce qu'on a eu un regroupement massif récent qu'on peut clairement nommer de foule, qui a suscité une quasi-unanimité, la foule festive de la Coupe du Monde. Mais pourquoi on accepte une foule festive, celle-ci, et pas une autre, par exemple à la fête de l'humanité ou lorsqu'on a décidé de faire la fête à Macron? Cela pose en fait plus profondément la question de qu'est-ce qui produit le lien dans une foule et quelle relation entretient la foule avec le reste de la société, comprendre comment un groupe agit sur l'autre. Commençons d'abord par essayer de définir une foule et essayer de comprendre son fonctionnement interne. Lorsque vous voyez une foule, c'est assez normal que vous ayez une sorte de répulsion naturelle envers la foule. La foule est soit un adversaire pour le politique. Elle est très désagréable lorsqu'on est simplement spectateur et qu'on la voit agir, qu'on la voit bouger à travers les rues. Et pour le spectateur, la foule ressemble surtout à un rassemblement très grégaire. Pourquoi irait-on se perdre dans un endroit où ma propre individualité, tout ce qui fait moi, à savoir être maître de mes décisions, est complètement broyé au profit d'un vacarme sans cesse et le simple fait d'être au milieu d'autres gens. Pour essayer de mieux comprendre des fonctionnements qui nous paraissent assez difficiles à voir au premier lieu, j'ai d'abord consulté un usage très classique sur le sujet. Il s'agit de la psychologie des foules de Gustave Le Bon. C'est un vieux livre qui date de 1900, mais... et en plus j'ai lu quelques articles qui m'ont conforté dans cette analyse, c'est une très bonne vision globale qu'on peut avoir sur la foule, sur les dynamiques qu'elle comporte, même si c'est parfois un peu simpliste, et si surtout on omet le ton conservateur. Parce que Gustave Le Bon faisait partie d'une grande bourgeoisie qui était très effrayée face aux grandes manifestations socialistes, face aux grèves, et surtout, il se proposait par son ouvrage de proposer une lutte contre cette foule sauvage pour n'importe quel homme politique très sérieux, c'est-à-dire qui défend les intérêts de la classe bourgeoise, à la fin du 19e siècle. Et le suffrage universel serait alors une sorte de rempart face à cette anarchie. Mais plus précisément, dans son livre, il définit la foule non comme un groupement de gens, non comme une somme d'individus qui sont mis à côté. Il y a foule précisément, pour Gustave Le Bon, au moment où les sentiments et les idées de toutes les unités sont orientés dans la même direction. Et c'est pour cela que Gustave Le Bon considère les foules non comme des agrégats, non comme un phénomène simplement de masse, mais comme bel et bien des unités sensibles à elles toutes seules qui réagissent à des choses. Ce qui fait leur unité peuvent être alors des sentiments et des idées, c'est-à-dire le sentiment festif dans le cas de la Coupe du Monde, ou des idées politiques proches lorsque l'on va faire une manifestation. Mais elles sont à la fois unités sensibles, c'est-à-dire qu'elles réagissent, mais elles sont aussi des environnements sensibles à elles toutes seules, puisqu'elles entraînent des réactions à l'extérieur d'elles, mais aussi à l'intérieur d'elle, soit l'envie de la suivre lorsqu'on la voit passer, l'envie de réagir avec elle et de commencer à chanter ce que les autres chantent. Mais c'est aussi l'envie de la dissoudre parce qu'elle nous terrifie, parce qu'elle provoque chez nous une sorte de peur ancestrale. Peu importe à quel point l'individualité est forte, la foule nous transforme complètement. Même le plus charismatique et le plus certain de tous les bourgeois, au milieu d'une foule, a tendance à avoir les réactions les plus grégaires, à hurler, à chanter, à crier. Gustave Le Bon décrit les différents bourgeois modérés qui se trouvaient au sein même de l'Assemblée nationale et qui votaient à gauche ou parfois votaient à droite selon les grands mouvements de foule, selon les grands mouvements de débat, parce qu'ils étaient tiraillés aussi bien dans l'envie de changer la société, mais ne voulaient pas aller trop loin. Et c'était souvent selon le groupe qui était en position de force qu'il choisissait de voter. Selon Gustave Le Bon, il y a trois causes qui changent les individus au sein même d'une foule. Le premier, c'est surtout le sentiment de puissance qu'on gagne grâce à l'anonymat. Il y a certes un sentiment de puissance par le nombre de personnes qui vont dans le même sens que vous dans une foule. Mais le point de Le Bon, et c'est assez intéressant, c'est surtout à l'absence de responsabilité qu'entraîne la foule. Non pas de responsabilité a posteriori, parce que après un mouvement collectif, la société va retrouver ses droits et va juger la personne. Non, c'est de responsabilité à l'intérieur de la foule. Parce que personne, lorsque je vais aller casser un McDonald's au sein d'un groupe du Black Bloc, ne va me tenir responsable de mes actes. Ce que je ne fais n'est pas mal. C'est cet anonymat, parce que nous partageons tous la même idée, qui terrifie profondément la foule pour tous les gestionnaires politiques. Parce que le McDo cassé n'est pas seulement un McDo cassé. Parce que cet anonymat, cette perte de responsabilité peut toujours mener à pire. C'est ça qui leur font peur, bien que c'est peut-être qu'un fantasme. La deuxième cause, selon Gustave Le Bon, c'est l'effet dit de contagion. C'est très simple, c'est extrêmement intuitif. Lorsqu'on entend quelqu'un chanter dans la foule ou on voit les gens courir vers le même endroit, on court vers le même endroit, ou on commence à entonner le même hymne. Et c'est ce qui fait particulièrement peur, c'est qu'on le fait extrêmement simplement comme une contagion, c'est quasiment passif. Et c'est ça qui terrifie aussi les gens qui regardent les foules. C'est ce qui porte atteinte à l'individualité même. On se laisse aller dans une sorte de sensation collective qui envahit totalement. Et cela fait appel à toutes les forces ctoniennes qui sont à l'intérieur de nous et qui ne réagissent jusqu'à une sorte d'événement de troupeau. Mais ce ne serait qu'un événement de troupeau s'il n'y avait pas la troisième cause que Gustave Le Bon appelle l'effet de la cause de suggestibilité. Je trouve ce terme beaucoup plus compliqué pour ce qu'il désigne. En fait, ce qu'il souhaite expliquer, c'est que la foule n'a pas seulement une âme sensible, elle a une âme hypersensible. Il y a un mot d'ordre qui accroche les idées que chacun partage dans la foule, il va se diffuser immédiatement. Ce n'est même pas que la contagion, c'est à chaque image, à chaque réaction des gens extérieurs à la foule même va gagner une sorte d'hystérie de réaction, une réaction immédiate. Et c'est ça qui fait que ce n'est pas seulement un mouvement de troupeau, c'est qu'il y a une véritable réflexion et réaction dont sont capables les foules. Et ces trois causes, selon Gustave Le Bon, créent une moralité spécifique aux foules. Elles sont capables alors des plus grands désintéressements, et on le voit bien lorsque, au sein d'une manifestation, chacun aide son prochain lorsque, par exemple, tout le monde se prend du gaz lacrymo dans la gueule. On commence à aider chacun les personnes autour d'elle sans même les connaître. Mais on est aussi mais cette moralité spécifique, propre à la foule à un moment T, conduit aussi aux plus grandes horreurs. En fait, on voit clairement que la foule est un environnement avec ses propres dynamiques qui fait concurrence toujours à la société. C'est ce que Gustave Le Bon appelle la crédulité des foules. Une création de légendes propres à la foule autour de mots, d'images, d'actions, une des sortes de représentations propres à la foule qui vont forcément contre le bon sens ou contre les faits même. C'est une représentation qui traverse la foule et c'est elle qui est le plus importante. Elle est beaucoup plus importante que la réalité même. Elle est plus importante que ce qu'on a appris à l'école. C'est véritablement la manifestation la plus sincère de ce qui fait le lien. Parce que si la foule est une communauté hypersensible, pourrait-on dire, le squelette est alors beaucoup plus visible. Le lien qui relie chacun est incroyablement plus compréhensible. Et on peut essayer de voir ça à travers un cas concret d'une action politique et sociale d'une foule, celle du massacre de Hautefeuille. Commune de l'arrondissement de Nontron, dans la Dordogne. Un jeune noble est supplicié durant 2 heures, puis brûlé vif sur le foirail, en présence d'une foule de 300 à 800 personnes qui l'accusent d'avoir crié « Vive la République !». Le soir, les forcenés se dispersent et se vantent d'avoir rôti un Prussien. Certains regrettent de ne pas avoir infligé le même sort au curé de la paroisse. Il ne s'agit pas ici de faire l'histoire du Périgord au XIXe siècle, mais de détecter les ingrédients qui entrent dans cette alchimie étrange aux yeux des contemporains, qui produit la cruauté de haute fée. Le recours au passé s'impose non pour discerner les causes de ce drame, la démarche serait naïve, vaine et obsolète, mais pour en percevoir le sens, pour pénétrer les mécanismes psychologiques de la foule qui conduisent au massacre. Je m'appuie ici sur le livre d'Alain Corbin nommé Le village des cannibales qui décrit donc un massacre paysan 1870 d'un jeune noble. Une foule de paysans massacre donc Alain de Monéis en raison d'un prétendu cri « Vive la République » qu'il aurait poussé. Tout historien, mais aussi pour tout républicain ou toute personne qui ont appris ce fait divers à l'époque, c'est complètement absurde. Ce n'est pas normal qu'un noble légitimiste, c'est-à-dire de la contre-révolution, de l'extrême droite traditionnaliste qui souhaite le retour de la monarchie, puisse crier « Vive la République !» Et surtout quelqu'un qui serait aussi nationaliste que Alain de Monéis ne peut pas être prussien. Pourtant, il y a une cohérence interne à cette foule, ou le fait même qu'il serait prussien, républicain et à la fois noble. Il faut alors essayer de comprendre ce qui unit alors la représentation, et c'est ce qu'essaye de faire Alain Corbin durant une partie de son livre. Selon les paysans du Nautron, les seigneurs sont des messieurs, des puissants, des accapareurs qui, selon les légendes collectives et régionales, étaient maîtres et faisaient peser l'impôt durant tout l'Ancien Régime, et ce serait 1789 qui aurait mis fin à cela. Le seigneur, c'est celui qui n'est pas de ce monde, qui ne comprend pas ce qu'est la foire et qui cherche simplement à gagner de l'argent sur le peu qu'il gagne. Le républicain est aussi détesté en raison d'impôts que la Deuxième République avait mis en place en 1848. Il est lui aussi un accapareur, sachant que ces impôts allaient de pair avec une augmentation du salaire de député. Il y a une haine commune des paysans pour à la fois les royalistes, à la fois les nobles et à la fois les républicains. À contrario, ils apprécient particulièrement l'empereur Louis-Napoléon Bonaparte, nommé Napoléon III. Cet empereur est aimé aussi bien parce qu'il évoque tout simplement les rares fois où ils ont entendu parler de la France comme une union, c'est la naissance aussi d'un sentiment d'une union nationale qui est représentée par les Napoléons. Cet empereur, Napoléon III, a fait différents plébiscites, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des référendums, en s'adressant eux-mêmes à la nation même. C'était la première fois qu'on décidait de véritablement écouter de façon directe et simple les paysans. Mais c'est aussi un empereur qui passait son temps, en faisant plusieurs très grands travaux, passait son temps aussi à traverser les campagnes pour essayer d'être au plus près de ce peuple qui l'avait élu. Il y avait véritablement un attachement de ces paysans pour Napoléon III. Donc, au moment de la guerre de 1870 contre la Prusse, c'est-à-dire l'Allemagne, les différentes figures ennemies de l'empereur se rapprochent. Et celle du Prussien s'ajoute alors à celle du seigneur, du noble et du républicain. Il y a alors une sorte de peur du complot qui pourrait aller contre et qui viserait notre empereur. Et ce complot serait un moyen d'expliquer les problèmes que encourt l'empereur au moment de la campagne. C'est une façon normale d'expliquer, c'est une simple rumeur. Mais la rumeur porte en son sein un commencement d'explication qui est parfois juste nécessaire pour ces paysans, peu importe que cela colle ou non. Il y a alors une union de ce groupe, les paysans du Nautron, autour de ces codes, cette détestation commune, cette croyance dans le complot, mais aussi une certaine panique générale ou en tout cas une tension qui gronde au moment de la foire du 15 août où on présente les bêtes. Tout le monde est tendu, on a peur qu'il arrive quelque chose à l'empereur, on a peur que la nation tombe. Peu importe quel événement va arriver, qu'il aille contredire ses représentations ou pas, le groupe va juste ingérer quelque chose qui va flatter la sensibilité commune. Or, le cousin de la future victime comprend que l'atmosphère n'est pas au beau fixe au moment de la foire et décide de s'enfuir. Alors commence à se développer une rumeur Ce cousin de la victime aurait crié « Vive la République !» durant une foire. Et cette rumeur est venue tout simplement du fait que la présence de ce noble n'était absolument pas désirée, qu'il y avait une volonté de la communauté villageoise ou la communauté du Nautron à se regrouper. Et c'était une présence non désirée. Donc, nous intégrons cette présence par un discours qui l'exclut. Je cite Alain Corbin à propos de la rumeur. La rumeur raconte les tensions sociales qui divisent la population qui la colporte. Mieux que tout autre mode de circulation de l'information, elle énonce le désir et l'angoisse. Elle laisse apparaître et exaspérer des émotions refoulées. Il convient donc de ne pas s'en tenir à son contenu. Il faut la considérer aussi comme un acte qui procure le plaisir trouble de dire et de savoir. À travers elle, c'est une consommation de relations sociales qui s'opère. Ce sont des liens qui se renforcent. Après cet épisode où jeune noble s'est enfui, son cousin, la victime, Alain de Monéis, arrive à la foire et est lui aussi non désiré. Mais cette fois, les paysans le prennent à partie. Et le fait qu'ils ne comprennent pas que son cousin ait pu crier « Vive la République !» puisque son cousin est tout aussi légitimiste que lui, crée chez lui une sorte d'incompréhension. Mais le fait même qu'ils ne comprennent pas la logique de la foule le rend suspect aux yeux de cette foule. Il est alors sûrement participant au complot, il est sûrement soit un prussien, soit un républicain, soit un légitimiste, mais en tout cas il est ennemi de la communauté, il est ennemi de ce en quoi la communauté croit. Alors la violence de foule n'est pas une violence grégaire, c'est une violence véritablement organisée et qui répond aussi aux représentations internes de cette foule paysanne. Comme le décrit Alain Corbin, je ne vais pas paraphraser, autant vous le lire directement. La foule déchaînée n'utilise pas d'instruments tranchants. Elle ne parle pas de saigner le Prussien. Pas de couteau, pas de hache, pas de serpe, pas de faux. Il est tout juste fait mention d'une fourche, mais incidemment. Il s'agit d'assommer, comme sait le faire le paysan lorsqu'il a décidé de tuer une bête. Il convient de doser les coups pour faire durer le supplice et permettre à chacun dans son but. Comme souvent, le massacre a aussi pour fonction de souder le rassemblement. La foule du foirail, temporaire et mouvante, ne constitue pas une véritable communauté rurale, nourrie de ses solidarités, paradoxalement vivante de ses tensions, forte de ses interconnaissances, liée par les différentes contes qui nouent les individus. Dans les venelles de Haute-Fée, chacun doit porter un coup au pauvre Alain de Monéis. Personne ne doit prendre trop haut le parti de la victime, au risque de se voir menacé du même sort. Alors on peut éclater la liesse, celle du bûcher où se carbonise le corps de l'adversaire. On oublie que la fonction du massacre n'est pas que de réprimer. Elle est aussi d'apaiser les tensions, de rétablir l'harmonie collective à l'issue d'une période d'angoisse. Bref, exorciser la peur sociale, c'est-à-dire l'horreur inspirée aux membres des classes dominantes par la distance anthropologique qui sépare de l'autre, menaçant. Tel semble le moteur des attitudes politiques du pouvoir en un siècle à propos duquel il serait paradoxal de prétendre que la violence collective s'atténue. On voit bien que la foule, ici spécifique à une communauté paysanne du Nautron, dessine les contours d'une communauté qui résiste aux exigences morales et sociales. Et c'est ce que je disais, la foule comporte en elle la capacité de refaire le monde parce qu'elle porte des valeurs différentes. On peut alors, pour essayer d'étudier une foule, essayer de comprendre son unité sociale. D'où viennent ces paysans ? Ont-ils la même forme de représentation ? Ou ont-ils en commun des conditions de vie ou simplement des idées ? C'est ici toute une tradition de la sociologie française qui s'intéresserait à ces questions, plus proche de Durkheim ou de Bourdieu. J'aimerais essayer d'approcher cela avec une autre tradition sociologique, celle de Gabriel Tarde, qui est souvent taxée de psychologisme. Mais Gabriel Tarde voit en fait surtout la société comme un tissu d'actions interspirituelles, d'états mentaux agissant les uns avec les autres. Gabriel Tarde pense que si les individus agissent les uns comme les autres, c'est non pas par adhésion à une grande idée qui planerait au-dessus de nous, mais ce serait par imitation de l'un avec l'autre, qu'il y a quelque chose de sensible dans ce qu'on appellerait la convention. Et je trouve qu'il est intéressant de parler de Gabriel Tarde pour prolonger le propos de Le Bon pour comprendre ce qui se passe dans une foule même et au sein même d'un groupement d'individus, en plus général. Mais pour essayer un peu de renforcer la sociologie de Tarde, un chercheur, Yves Citon, combine Gabriel Tarde avec un philosophe nommé Spinoza pour voir, essayer de comprendre comment, au moment même de ma situation dans la foule, voir une autre personne être dans la foule m'affecte autant. Parce que la foule, c'est des affects contradictoires. Chaque individu contient des passions différentes, un désir différent d'aller dans la foule. Mais il y a toujours quelque chose de commun, parce qu'on se réunit autour d'une certaine base d'idées, ou sur des représentations communes, ou sur une joie commune. Et même si les affects sont contradictoires au sein d'une foule, ils sont puissants. Et ce que dit Gabriel Tarde, c'est que les individus ont tendance alors à imiter autrui, quitte à devenir conventionnel, plutôt que de ne pas agir du tout. Il y a véritablement un plaisir humain et limite animal à toujours agir. Ce que dit alors Spinoza dans l'éthique est particulièrement intéressant. Je vois, ou je crois voir, de la joie en ce que j'aime, donc je sens de la joie. Les gens qui sont autour de moi dans la foule partagent mes idées, ils partagent aussi mes sensibilités, et cela me renforce dans l'envie même de les suivre. Alors, on peut relier clairement cette perspective de l'individu au sein même d'une foule avec ce que Gabriel Tarde appelle le principe de contagion mimétique. Ce principe renforcerait mon amour pour la communauté qui est physiquement devant moi et ses valeurs lorsque je vois un grand nombre de personnes allant dans la même direction que moi, selon le principe que j'ai dicté avec Spinoza. C'est ce qui mène peut-être aux réactions les plus violentes de rejet lorsque quelqu'un décide de ne pas faire partie de la liesse d'une foule. C'est peut-être d'où viennent l'incompréhension de beaucoup de gens, voire des insultes qui ont suivi immédiatement après la fête de la Coupe du Monde, lorsque des gens disaient que certes, c'était bien qu'on avait gagné la Coupe du Monde, et moi-même je faisais partie de ceux qui en ont fêté, mais qu'il y avait eu des écarts, qu'il y a une représentation de la fête qui est peut-être trop portée sur une vision extrêmement machiste du sport, que de toute façon qu'il y avait un exhibitionnisme toléré au moment de cette Coupe du Monde qui n'était jamais toléré pour aucune autre démonstration, ou qui serait désignée comme déviante si par exemple il y avait eu une exhibition à la Gay Pride. En fait, le rejet, l'incompréhension et les insultes ont été proportionnels à la joie collective au moment de la Coupe du Monde, aussi au nombre de personnes qui étaient mobilisées dans cette joie, dans cette foule qui a eu véritablement une manifestation festive durant une nuit entière. Mais comme la foule porte en germe des représentations spécifiques et que, parce que je vois plein d'autres gens aller dans le même sens que moi, j'ai la sensation que ce ne sont pas des représentations spécifiques, mais la vérité. Et ceux qui ne partagent pas cette vérité ne sont pas considérés comme des écarts par rapport à mes valeurs. Par exemple, quelqu'un ne peut tout simplement pas aimer le foot ou ne pas aimer se retrouver dans une foule. Non, ils sont considérés comme déviants. C'est forcément qu'ils ne peuvent pas s'amuser, qu'ils doivent se détendre le cul. C'est aussi le fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre à la hauteur du sport, qu'ils n'ont jamais cherché à le comprendre. Ou c'est soit un mépris populaire. Or, c'est tout autant des femmes des classes populaires que des gens d'une condition sociale plus élevée qui ont dénoncé l'hystérie collective au moment de la Coupe du Monde. Cela m'amène à conclure sur le fait que la foule, en effet, comporte en elle la capacité de refaire le monde, comme je l'ai dit précédemment. Elle met toujours en scène des valeurs incroyablement plus sensibles que dans d'autres manifestations politiques et sociales. Lorsque la foule commence à faire la fête, on voit non pas des individus s'amusant, on voit comment la société pourra évoluer. Et c'est peut-être ça qui effraie le plus dans la foule, mais qui parfois aussi peut être le plus dangereux. Pour cette émission, je me suis beaucoup servi de Gustave Le Bon et je vous recommande la lecture parce que je n'ai pas tout dit sur son livre et qui possède certains moments aussi très intéressants par rapport aux différents types de foules, mais je n'avais pas le temps de le traiter. Même s'il est un peu vieux, même si c'est les délires d'un vieux conservateur, il y a quelques sérieux dedans. Je vous invite bien sûr à lire le livre sur lequel je me suis appuyé, à savoir celui d'Alain Corbin qui s'appelle Le Village des Cannibales, qui était une excellente lecture et qui est celui qui m'a véritablement donné envie de faire cette émission. Je vous renvoie sinon à toute œuvre de fiction que vous connaissez, que ce soit des films, des séries, des livres. Essayez de voir comment la foule est décrite, comment elle est représentée. Est-ce qu'elle est vue comme une unité sensible? Est-ce qu'elle est vue comme un environnement qui entoure la personne? Est-ce que la personne se retrouve dans cette... le héros se retrouve dans cette foule? Est-ce qu'elle est exclue par cette foule? C'est toujours intéressant de voir par la fiction comment la foule qui prétend re-raconter le monde se fait est racontée à ce moment-là. J'espère avoir donné un peu de sens à tout cela et je vous souhaite une bonne soirée.